Amis, frères et sœurs, recevez ici et maintenant la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte, que vous veniez pour la première fois ou que vous veniez régulièrement, soyez ici, chez vous, dans cette maison où nous sommes rassemblés pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres, en particulier avec celles et ceux qui traversent un temps de deuil, un temps de maladie, un temps de souffrance, de solitude et d'injustice. Bienvenue et merci à David Cassan qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Il nous arrive d'être inquiets à cause d'un souci, d'une angoisse, d'une peur qui s'infiltre en nous et qui nous ronge. À cause de cette inquiétude, nous ne trouvons plus le repos, nous nous agitons, nous devenons fébriles, nous nous fatiguons. Nous sommes alors dans une spirale qui va de l'inquiétude à l'agitation, de l'agitation à la fatigue, de la fatigue au découragement. Mais il est écrit au livre d'Ésaïe, « Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. » C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, ouvrons ce culte ici et maintenant dans le calme et la confiance avec le premier répond de la liturgie que vous trouverez inséré au début du psautier français. Je vous invite à vous lever. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 130. Nous chanterons les quatre strophes de ce psaume, psaume 130.
Dans l'abîme où je suis, Prenez place.
Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Prions ensemble. Mon Dieu, il y a tant de choses qui ne sont pas des fautes, mais simplement des difficultés, des nœuds, des vagues dans lesquelles nous nous sentons emportés et où nous perdons pied jusqu'à nous noyer sans savoir pourquoi. Il y a tant de choses qui arrivent sans que nous l'ayons cherché, ni voulu, ni compris. Et peu à peu, voici que nous nous asphyxions dans le trouble, le regret, le remords et le noir. Nous te prions pour tout ce qui n'est pas une faute, et qui pourtant est devenue une détresse et une culpabilité. Nous t'en prions, viens alléger, viens fortifier nos vies et la vie du monde entier. Tiens-nous debout. Amen. Accueillir le pardon que Dieu renouvelle par sa grâce, je vous invite à vous lever. Et nous recevons cette parole avec les mots empruntés à l'apôtre Paul. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur. Chantons à Dieu notre reconnaissance. et je vous propose de vous unir à cette confession de foi dite de l'oratoire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Prenez place. Aujourd'hui, nous lirons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » « Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite à prendre à la fin du psautier français, dans le petit supplément qui contient quelques chorales, je vous invite à prendre le choral numéro 33 qui s'intitule « Dieu des louanges soit béni ». Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 et je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Ta prière est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers la mer. Ta parole est comme le feu. Qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu nous donnes, exiges et promets. Amen. Amis, frères et sœurs, qui n'a pas traversé un jour ce désert aride que l'on nomme l'injustice ? Qui n'a pas été habité par cette impression bizarre qui laisse dans le cœur et sur la langue le sentiment amer de l'impuissance et de la révolte ? Qui ne s'est jamais senti écarté, délaissé, abandonné, alors qu'il recherchait ou disait la vérité et qu'il n'a pas été cru ? Et qui n'a pas découvert par la même occasion cette envie sourde de rendre le mal pour le mal ou de faire justice soi-même ? Chacun, chacune connaît à un moment de sa vie ou à un autre l'obligation d'attendre que justice soit faite, pour une chose ou pour une autre. Et bien souvent, cette justice tardant à être faite, le découragement le saisit, si ce n'est la résignation qui l'emporte. Tant pis, je laisse tomber, puisque rien ne bouge. Alors, contre toute attente, voilà une histoire de l'Évangile particulièrement séduisante. Une parabole de Jésus qui convient bien. Une femme, veuve de surcroît, vient à bout d'un juge inique, voire cynique, de quoi faire rêver dans notre contexte actuel. La parabole met en scène un juge et une femme veuve qui ont des relations pour le moins tendues. Le juge ne s'intéresse pas au cas de cette femme, qui lui casse les pieds, en tout cas la tête, et la veuve insiste de toutes ses forces pour obtenir réparation. Elle veut que justice soit faite. Et elle y arrive. L'histoire est encadrée par une introduction significative. Jésus leur dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Et une conclusion surprenante, Dieu fera justice à ses élus encore plus vite que le juge inique, mais la vraie question reste celle-ci, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Alors, la parabole s'oriente autour de trois axes, la prière, la justice et la foi. La prière. Il faut toujours prier, dit l'évangéliste Luc, et de préférence sans se lasser. Mais Luc, dans un chapitre précédent, le numéro 11, a déjà raconté une autre parabole, celle de l'ami opportun qui insiste tard dans la nuit pour que son ami lui donne du pain pour des voyageurs arrivés sans prévenir. Et il insiste tant et si bien qu'il reçoit effectivement le pain demandé. L'entêtement contenu dans la prière est récompensé. Mais ici, c'est autre chose. Notre histoire va plus loin. La femme veuve demande autre chose que du pain pour ses amis. Elle demande que justice soit faite. Et elle pousse le juge dans ses retranchements jusqu'à ce que justice soit faite. Elle veut simplement qu'il effectue son travail de juge, qu'il ne se dérobe pas à la fonction qui lui incombe. Elle l'oblige à prendre et à assumer ses responsabilités et qu'il ne soit pas le chaînon manquant pour faire advenir le royaume. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette parabole, faire advenir le royaume. Alors la démarche de la veuve peut agacer, déranger, mettre mal à l'aise parce qu'elle dénonce en fait un dysfonctionnement. Alors que si chacun remplit sa part du contrat, le dysfonctionnement disparaît et le royaume peut alors advenir. La justice, cette parabole, est bien plus dérangeante qu'il n'y paraît. Et pour une fois, elle encourage chacun et chacune à ne rien lâcher tant que justice n'est pas faite. Elle encourage, pour ne pas dire exhorte, chacun et chacune à sortir les cadavres planqués dans le placard depuis des lustres, à enlever la poussière cachée sous le tapis, tout simplement parce qu'à force de la cacher, cette poussière, on se prend les pieds dedans. Cette histoire a pour but de dénoncer toute forme d'injustice à tous les niveaux de la société, du travail, de la famille, de l'Église, surtout lorsque ces injustices sont devenues systémiques. Alors, me direz-vous, mais c'est une lutte sans fin depuis la nuit des temps, tout simplement parce qu'il faut du temps pour lutter contre la banalité du mal, selon l'expression de la philosophe Hannah Arendt. Mais si on ne lutte pas, alors ce mal finit par nous rejoindre, nous rattraper, voire gagner sur nous, soit que nous le subissions, soit que nous le commettions. Finalement, on y participe plus ou moins à ce mal quand nous baissons les bras devant la violence, devant les discriminations de toutes sortes, devant la pauvreté, devant le sexisme ou le racisme, devant l'obscurantisme aussi. Alors au fond, la véritable tentation, c'est de hausser les épaules en signe d'impuissance ou de résignation, au lieu de hausser le ton pour dénoncer ce qui ne va pas. Et on a tort de ne pas faire entendre sa voix quand ça ne va pas. Une petite voix qui demande inlassablement que justice soit faite, fait beaucoup plus de bruit que celui de tous ceux qui crient des horreurs parce qu'ils ne croient en rien ou ne craignent plus personne. Et la surprise de cette parabole réside dans le fait que pendant un instant, Jésus compare le juge inique à Dieu. Si le juge inique cède à la requête de la veuve, alors il n'y a pas de raison que Dieu, qui est justice par excellence, ne rende pas justice à celui ou celle qui le demande sans se lasser. En fait, cette justice est déjà rendue et en même temps, il ne faut pas se lasser de la demander. Cette justice est comme le royaume, déjà là et pas encore là. Le croyant vit dans cette tension du déjà là et pas encore. Jésus dira sur la croix, tout est accompli, mais pour celles et ceux qui sont au pied de cette croix, tout reste à faire advenir. Et lorsque Jésus dit en conclusion de sa parabole « Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est de cela dont il s'agit. Est-ce qu'il y aura encore des hommes et des femmes qui auront soif de justice ? Ici, dans cette histoire, la foi, c'est avoir faim et soif de justice, comme le proclamait Jésus dans les Béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux êtes-vous chaque fois que justice est faite. Ici, dans cette parabole, la veuve fait entendre sa voix, le juge inique finit par lui rendre justice. Rendre justice, faire justice, cela prend du temps, de nombreuses années parfois, simplement parce que les victimes ont eu leurs paroles confisquées, ainsi que celle des lanceurs et des lanceuses d'alerte, qui pourtant, à bien des moments, ont essayé d'avertir, d'informer, de dessiller le regard d'une société, d'une famille, voire d'une église, trop longtemps aveugle et sourde. Et c'est ainsi que le royaume, si cher au cœur du message du Christ, avance d'un petit pas, d'un pas menu, certes, mais avance tout de même. Et c'est le plus important. Le royaume est déjà là, tout entier, dans le Dieu de Jésus-Christ, mais il reste à le faire advenir par nous, croyants imparfaits, croyants aux mains nues, que nous croyons en un Dieu ou que nous croyons en l'être humain. Et si par hasard nous croyons en Dieu, alors méfions-nous de ce que nous croyons. Et surtout, examinons le Dieu en qui nous croyons. Quelle est la représentation de Dieu que nous avons et que nous véhiculons? Est-ce encore celui d'un vieillard barbu assis sous son nuage, dirigeant tout du haut de son ciel, ou est-ce l'image de Dieu qui s'est incarné en un homme, Jésus de Nazareth, venant vivre au milieu des hommes, proclamant un Dieu avec les hommes et non contre les hommes? Selon ce que nous croyons, ça change tout. La foi. Cette parabole de Jésus nous invite à faire attention à ce que la foi que nous professons ne soit pas un déni d'humanité. Le discours que nous entendons régulièrement et peut-être plus en ce moment nous ouvre à la vigilance de notre annonce de l'Évangile. Il semble bien qu'aujourd'hui encore, une certaine prédication chrétienne est parfois la plus grande pourfendeuse de l'humanité, pour reprendre un thème écrit par Raphaël Picon. Cette parabole parle à notre cœur, mais aussi à notre intelligence, car nous savons bien que l'injustice existe toujours. L'injustice a toujours été de mise et il est bien difficile d'avoir le courage de lutter contre elle, parce que c'est un puits sans fond, que ce soit du temps de Luc ou d'une autre. Lutter contre l'injustice, au sens large du terme, c'est une manière de lutter contre le mal. Et c'est exactement ce que nous demande la veuve de notre parabole. Alors cette parabole nous interpelle-t-elle ce matin ? Sommes-nous sensibles à l'image de cette femme démunie qui n'a personne pour la défendre, personne pour l'accompagner? Elle ne compte que sur elle-même et sur l'intensité, la répétition, l'obstination de sa demande, que justice soit faite. Cette parabole se place du côté des victimes, des petits, des laissés pour compte qui s'entêtent à demander chacun à leur manière que justice soit faite. Avec quelle foi recevons-nous cette parabole? Sommes-nous en adéquation avec le Dieu qu'annonce Jésus le Christ? Marion Muller-Collard témoigne ainsi dans son commentaire de cette parabole: « Ce Dieu dont nous parle Jésus n'est pas seulement un Dieu juste, il est justice avec un J majuscule. » Justice d'ores et déjà donnée, accomplie, acquise. Alors, pourquoi demander? Parce que nous ne sommes pas encore dans le royaume où toutes les justices fusionneront. Parce que le règne spirituel et le règne temporel, comme le remarquait Luther, sont encore indistingués. Parce que l'Évangile souligne sans cesse la tension entre l'espérance ancrée dans cette justice à laquelle Jésus donne visage et le combat à mener pour la justice dans le monde. Fin de citation. Les temps que sont les nôtres sont troublés. Notre foi est éprouvée. Et c'est bien là la question que Jésus pose à la fin de son histoire. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce que la foi? C'est avec cette question qu'a démarré le brunch libéral hier matin à la salle Mono avec Béatrice Cléromazir et Vincent Hubach. La parabole d'aujourd'hui nous donne une réponse parmi d'autres possibles. La foi, ce n'est pas seulement la confiance et l'espérance. Mais c'est ici un désir inassouvissable de justice, un désir que Dieu a placé en nous et en lequel il place sa propre espérance. Finalement, le plus entêté de notre histoire, c'est encore Dieu, à travers le personnage de la veuve. C'est Dieu qui croit en l'être humain. Encore faut-il que nous y croyions nous-mêmes. Et si nous disons que la foi soulève les montagnes, alors nous finirons bien par nous lever à notre tour pour aider les autres à se relever, dans le seul but d'être des hommes, des femmes et aussi des enfants, debout. Synonyme même, image même d'un peuple ressuscité, suscité à nouveau. Et permettez-moi de paraphraser Albert Schweitzer en quelques mots, qui sera ma conclusion. Ainsi sera insufflée une nouvelle vie, ainsi naîtront de nouvelles actions adaptées aux besoins de notre temps, ainsi pourrons-nous contribuer à l'achèvement du monde, ainsi deviendrons-nous des enfants du royaume de Dieu. Que la foi demeure et que notre joie d'en vivre demeure aussi. Amen. Dans le recueil Louange et prière, je vous invite maintenant à prendre le cantique numéro 265. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever.
Chaque
des places. Je laisse la parole maintenant à Aurore Sagliotebo pour quelques mots d'annonce.
Excusez-moi. Bonjour à tous. J'allumais un deuxième micro parce que j'ai attrapé un méchant Covid en début de semaine. Et comme tout à l'heure, je vais appeler le trésorier à me rejoindre, je ne tiens pas à partager le même micro que lui. Franchement, couvrez-vous parce que le Omicron qui se promène est particulièrement méchant. Contribuer ici et maintenant à un monde meilleur, c'est vraiment ce qui anime l'équipe du conseil presbytéral de cette église, composée de 17 bénévoles élus, que vous avez élus, que nos membres de l'association cultuelle ont élus, et nos deux pasteurs. C'est un combat de tous les jours. Et c'est pour ça qu'une prédication comme tu viens de nous la donner, Agnès, ça nous ressource. Ça nous ressource parce que dans la confession de l'oratoire que tu as cité tout à l'heure, dans la confession de foi, qui n'est pas particulièrement libérale, peut-être à l'exception de deux choses, en tout cas de mon point de vue, qui est, nous devons être un seul corps, et cette confession de foi se termine par « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et c'est vrai que c'est inlassablement, ici à l'oratoire du Louvre, depuis des décennies, des générations et générations, que nous essayons de rendre ce monde meilleur et de ne pas être dans un déni d'humanité. Parce qu'en effet, aujourd'hui, la religion, souvent, c'est un vrai déni d'humanité. Si vous n'en faites pas partie ou si vous ne pensez pas comme les autres. Alors c'est comme ça qu'hier, pour ne citer que cette semaine, la pasteur Béatrice Cléromazir, comme tu l'as dit Agnès, avec le pasteur Vincent Hubach, à rappeler ce que c'est que la foi dans le libéralisme, mais la foi aujourd'hui, pas la foi dans l'absolu. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, nous avons le pasteur Gilles Castelnau, qui est invité par Béatrice Cléromazir, excusez-moi, pour nous présenter un livre de John Shelby Spong, qui est « Être honnête avec Dieu ». Après ce culte, vous restez, s'il vous plaît, avec nous. Alors, John Shelby Spong est décédé, est un épiscopalien américain. Alors, pouvez-vous demander pourquoi c'est une des meilleures ventes de notre librairie depuis très longtemps? Parce que, vous savez, de temps en temps, de regarder ce qui se passe aux États-Unis et ce qui s'est passé aux États-Unis, ça permet de savoir ce qui va se passer ici 20 ans plus tard, notamment quand on voit les évolutions des évangéliques ou des mouvements comme Torrent de Vie. John Shelby Spong était un évêque épiscopalien qui a défendu les homosexuels, qui a lutté contre l'antisémitisme, qui a lutté contre toutes ces choses-là. C'est pour ça que nous l'apprécions et c'est important que vous compreniez ce que lui-même avait déjà dénoncé à l'époque pour que nous restions vigilants aujourd'hui. Donc après le culte, s'il vous plaît, restez avec nous. Également une pause spirituelle tous les jeudis à l'Oratoire du Louvre, ce jeudi avec Agnès Adeline Schaeffer, et samedi prochain, mardi, une fois par mois le mardi, nous avons maintenant, parce que nous vivons ici et maintenant, une possibilité d'avoir un culte d'intercession en semaine, pas que le dimanche, qu'a commencé la Béatrice Cléromazir il y a 3 ans. Ce culte d'intercession a lieu ici, le mardi midi, et est suivi d'un déjeuner partagé avec le pasteur et d'un partage biblique sur le thème cette année de la Bible en mouvement. Là aussi, c'est la même logique. C'est aujourd'hui et maintenant que ça se passe. C'est ici, à l'Oratoire du Louvre. Et cette Bible en mouvement, vous pouvez en discuter mardi. Samedi prochain, également, nous avons relancé les concerts spirituels. Et nous avons Alexandre Gorovitch, avec un de ses amis, Yannick Henry, qui était venu l'année dernière en piano à 4 mains. C'est absolument magique. Magique. Venez samedi prochain à 18h. Vous aurez de la lecture de textes bibliques par les pasteurs. Là aussi, c'est ici et maintenant, on peut faire un concert, on peut penser à un monde meilleur à travers des textes bibliques. Donc vraiment, samedi, 18h. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans notre confession de foi, il y a « augmente-nous la foi ». Vous savez, c'est comme le matin, à 10h25 ou 29, il n'y a quasiment personne dans ce temple. Ça fait toujours très très peur. Puis d'un seul coup, il est plein, à 10h33. Eh bien, on a le même sujet anxiogène, c'est que nous recevons 50% de nos dons entre novembre et décembre. Donc là aussi, il faut beaucoup, beaucoup de foi pour se dire qu'on va réussir à boucler le budget. Et cette année, nous vous avons, comme chaque année, rédigé, au nom du Conseil presbytéral, une lettre annuelle d'information financière que nos donateurs ont reçue, que ceux qui ne sont pas donateurs n'ont pas reçue. C'est un vrai souci d'ailleurs pour nous. Donc c'est pour ça que nous vous l'avons mis à la sortie du temple, entre les prédications. Donc vous ne pouvez pas la louper. Mais plus que de chiffres, ce dont nous avons parlé, c'est cette année ce que nous avons fait pour rendre le monde meilleur ici et maintenant. Et vraiment, lisez-la et vous comprendrez pourquoi il faut soutenir l'oratoire du Louvre. Et j'appelle notre trésorier, Alain-Pierre Reynaud, pour à nouveau vous expliquer, non pas pourquoi, puisque vous le trouverez ici, mais comment essayer d'optimiser nos finances. Merci à vous.
Allô ? Oui. Alain-Pierre Reynaud, le trésorier de l'oratoire. Bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous et merci d'être là. Voilà, l'oratoire, j'imagine, comme vous, comme pour vous, comme pour moi, c'est un lieu où vous venez nourrir votre spiritualité, vous vous recherchez, et puis on écoute la parole, une parole. Et elle essaye de nous éclairer, et l'avantage de cette parole, c'est qu'elle est ouverte, qu'elle est libre, et qu'elle essaye d'être intelligente, de faire appel, non pas uniquement à nos émotions, mais à notre intelligence, et c'est quelque chose de rare et de précieux qu'il faut soutenir. Et pour soutenir ça, bien sûr, il faut des soutes. Et dans les soutes, il faut de l'argent pour les faire fonctionner. L'oratoire, ça fonctionne avec un coût de à peu près 1040 euros par jour. Voilà. Il faut le savoir, c'est l'électricité, c'est tout ce que les papiers, les imprimeries, tout ce qu'il faut pour qu'une communauté puisse avancer pas à pas et réaliser un peu ce qu'elle essaye de faire, c'est-à-dire accueillir et aimer. Alors voilà, il faut donner, on est un peu en retard comme l'a dit Aurore, les temps sont pas faciles pour personne. Et ben voilà, pour vous comme pour nous, on est en retard dans notre budget, on a encore un peu plus de 50% à réaliser sur un mois et demi avant la fin de l'année. Voilà, donc on fait appel à vous, à vos dons, en fonction de vos moyens. Quels que soient vos moyens, vous pouvez donner. Et si vous donnez à travers les sites internet ou un chèque, eh bien, vous recevrez un reçu fiscal. Et ce reçu fiscal, grâce à Dieu, on vit dans un État, dans un pays où l'État soutient la vie culturelle. Et donc, grâce au reçu fiscal et à l'avoir fiscal qui est attaché, un don de 100 euros pour vous, après votre déclaration d'impôt, ça vous reviendra à 30 euros. Donc vous faites calcul, 1000 euros, 300 euros. 300 euros, c'est 6 euros par semaine sur un an. Ah, c'est rien, quoi. Donc voilà, on fait appel à vous. Donnez parce qu'on en a besoin. Donnez parce que vous en avez besoin. Et on espère avec vous tous que le don sera joyeux. Merci.
Et joyeux avec un grand J, comme justice avec un grand J. Merci beaucoup, bon dimanche.
Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, nous te présentons les personnes, hommes, femmes, enfants, qui, d'une manière ou d'une autre, déposent plainte et qui s'aperçoivent que leur plainte n'est pas entendue ou qu'elle est entendue ou écoutée à moitié. Ils demandent que justice soit faite pour ce qui a été subi. Ils attendent une réponse, une reconnaissance, une écoute, une présence. Que nous les connaissions ou qu'ils soient anonymes, nous te les présentons. Nous voulons aussi te présenter celles et ceux qui, à l'endroit où ils sont placés, ne devraient pas être un chaînon manquant pour que justice soit rendue, mais pour je ne sais quelle raison, abandonnent la partie. Alors, nous te les confions, que nous les connaissions ou qu'ils soient anonymes. Nous te prions pour les hommes et les femmes lanceurs d'alerte, qui sont autant de voix prophétiques. Qui nous pousse dans nos retranchements, nous aide à ne pas nier les évidences, nous aide à combattre les injustices autant que faire se peut, qu'ils soient connus ou anonymes, nous te les présentons. Et nous te présentons aussi celles et ceux qui ont le courage de prendre à bras le corps les dossiers embêtants, ignobles, dramatiques. Nous te présentons les hommes et les femmes qui osent s'investir, se pencher sur la question, creuser l'affaire. Regarder, découvrir le détail qui manquait et le mettre à jour, au jour, afin que justice soit faite. Qu'ils soient connus ou anonymes, nous te les présentons. Éternel Dieu de la vie, tu n'es pas seulement juste. Tu es justice, la justice, ce point de lumière où jaillit l'évidence du juste combat, ce lieu de courage qui ne baisse pas les bras, cet entêtement pugnace à désigner les devoirs et les droits. Chez les hommes, tu suscites une soif infinie de toi. Celui ou celle qui te cherche, cherche ce lieu, cette lumière, ce combat. Et si nous crions à toi, nous crions à la justice. Si elle tient entre tes mains, nous la portons à bout de bras. Éternel Dieu de la vie, tant que le monde criera, nous attendrons à toi et de toi. Que justice soit rendue, que justice soit faite, et peu à peu notre soif et notre révolte feront s'effriter les remparts qui se dressent entre le monde et ton royaume. Éternel Dieu de la vie, nos prières sont imparfaites. Aussi, c'est pourquoi nous les rassemblons dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen.